Quoique.
Ça vient vite.
D'autres annonces.
Oui, sur la diffusion du film.
Oui, le 21, mercredi 21 février, effectivement, vous pourrez retrouver Jean-Michel Rodrigo, le co-réalisateur du film Villa El Salvador, Les bâtisseurs du désert. Donc, c'est le co-réalisateur d'un documentaire réalisé en 2008 sur la ville Villa El Salvador, qui a été construite dans le désert à partir de rien par des personnes qui avaient besoin et qui ont monté. Oui, vas-y, fais parler Jean-Manuel.
À quelle date as-tu dit pour le Villa El Salvador?
Mercredi 21 février.
Mercredi.
Bon, avec un peu de chance, je devrais pouvoir venir.
Voilà. Et voilà, c'est au 145 rue Amelot, dans le 11e, à partir de 20h. Voilà, ce seraient tous et toutes les bienvenues. Oui, c'est Eric, je ne sais pas si tu vas y aller.
Ça
te permettrait de le voir.
Oui, oui.
Hein, puisqu'on va refaire après une émission d'ici à avril, avec Jean-Michel Rodrigo qui va revenir.
Si Martine rentre pour garder Popoc,
à 20h.
Oui, 20h. Oh, oui, mais il faut que je parte avant quand même.
Oui, mais bon, allez. Chien, il ne peut pas rester tout seul.
Oh, Popoc, il ne peut plus être un chien.
C'est tout comme annonce. C'est déjà pas mal.
Salut, Popoc.
Voilà. Bénédicte, tu peux lancer le générique et on va laisser la place à Jean-Manuel pour son émission Le Proton se rebiffe.
À un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant.
Salut, ciao à tous.
Ah, ciao.
Avec le mouvement anarchiste, sera sur des coins
libertaires. D'abord, il ne faut plus de gouvernement. Puis, il ne faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Ciao.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
L'émission en ce moment, Le Proton se rebiffe, a été enregistrée à Avignon, dans l'excellente épicerie-librairie appelée Youpi, 24 avenue Saint-Ruf, par Alexandre de Radio Aioli. Et la conférence porte sur le thème « Décroissance et anarchie, sont-elles jumelles et sont-elles réalisables ?»
Donc bonsoir à nouveau à tout le monde. Et évidemment, c'est une conférence légèrement angoissante pour le conférencier, parce que ce sont des sujets minuscules. Hein, l'anarchisme, la décroissance. J'ai essayé de faire un plan relativement cohérent. On essaiera d'abord de définir l'anarchisme, ensuite on essaiera de définir la décroissance. C'est pas tellement moins simple. Puis on va surtout parler des liens que j'appelle insécable, donc absolument impossible à déchirer entre anarchisme et décroissance. Et sur la fin, on parlera des lieux, des expériences qui ont réalisé le plus près possible, le mieux possible, soit l'un, soit l'autre de ces projets. Et mieux encore, il y a au moins un lieu sur cette planète qui, quand même, a quasiment réalisé les deux. Alors, ça tombe bien, parce que c'est l'un des lieux sur lequel j'ai écrit un bouquin. Alors évidemment, comme on est dans une librairie, il y a toute une table ici. Je vais parler bientôt de ces livres qui me semblent extrêmement utiles. Il y en a certains que vous connaîtrez peut-être déjà. À mon avis, il y en a un paquet que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et je les recommande tous, plus que vivement. Alors, on commence donc sur... Qu'est-ce que l'anarchisme ? Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans les différents groupes anarchistes. Alors, il y a un problème avec les groupes anarchistes, c'est que quand on commence à se demander qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, discussion, argument, coupage de cheveux en quatre. Et il y a une phrase sur laquelle je suis tombé il n'y a pas très longtemps qui m'a semblé absolument magnifique, que le problème de l'anarchisme est le problème d'être impur. Un pur, une personne pure, c'est qu'il y a toujours un plus pur que vous qui vous est pur. Et ça, vieux problème des groupuscules. Alors, je me suis dit, comment faire pour avoir une idée qui mette au moins tous les anarchistes d'accord, difficile, et puis qui permette pour les personnes non anarchistes ou proches de l'anarchisme ou curieuses à propos de l'anarchisme, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et puis, coup de chance, il y a donc une phrase. Alors, excusez-moi, il faut que je la note là, parce que je la trouve tellement bien. Et Aurélien m'a dit, attention, là, il y a les enfants, donc tu fais ça en chaussettes. Donc, je fais ça en chaussettes, ma première conférence en chaussettes. Merci Aurélien. Alors, elle est extrêmement simple, cette phrase. La radio, faut pas que je fasse de blanc. Les décisions sont prises par les gens qu'elle concerne. Vous allez me dire, c'est très simple. Ouais. Oui, mais si on y réfléchit, quelle autre idéologie politique applique vraiment ça? Même à gauche. L'URSS. L'URSS, c'est bien connu, les décisions étaient prises par les gens qu'elle concernait, n'est-ce pas? Pas vraiment. Les autres pays du socialisme dit réel, c'était la même chose. Or, si vraiment on prend cette phrase au sérieux, c'est là où, franchement, j'ai du mal à imaginer qu'une personne anarchiste ne soit pas d'accord avec ce programme. Et à partir de cette phrase, on peut déduire à peu près la totalité des débats anarchistes. Alors, pour passer dès le départ avec ces livres, parce qu'à nouveau, Aurélien m'a dit, Jean-Manuel, il y aura des gens qui vont être extrêmement au courant de ce que c'est que l'anarchisme, extrêmement au courant de ce que c'est que la décroissance, et puis il va y avoir des gens qui éventuellement seront nettement moins au courant. D'où l'idée de vous parler d'un certain nombre de livres, et ce chien est absolument magnifique. J'espère juste que je ne vais pas lui marcher dessus. Non. Et il s'appelle comment ? Soka. Sumimasen, Soka. Takshiwa. Bon, oh ben voilà, c'est une chienne. C'est une chienne extrêmement polie. Alors, premier bouquin. Bon, à nouveau, manque de modestie complet, puisque c'est mon livre. Il y en a deux. Récit de Christiania. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu parler de Christiania? Oui. Waouh, magnifique. 2, 3, 4, 5. Magnifique. Alors, Christiania, c'est quoi? On est à Avignon. Alors oui, parce que l'exemple que je prends d'habitude, c'est Christiania, c'est les Invalides à Paris, squattés. Oui, mais on est à Avignon. Alors, vous imaginez le Palais des Papes, squatté. Le Palais des Papes. Le truc historique en plein cœur de la ville, rajouter un parc à côté, avec un étang. 1000 personnes depuis 1971. Aujourd'hui encore, il y a à peu près 1000 personnes. Il y avait, à partir de 73, en gros 60 collectifs de production, de vente, de soins, de ceci, de cela. Aujourd'hui, en 2023, il y a encore à peu près 60 collectifs de vente, etc., dedans. Ça fonctionne à l'intérieur de manière anarchiste, puisqu'il n'y a pas de chef. Depuis 1971, il n'y a pas de chef. Il y a des meetings, des assemblées générales, des assemblées de quartier, l'assemblée de la comptabilité, l'assemblée de ceci, l'assemblée de cela. Il y a une newsletter où quand on veut proposer quelque chose à tout le monde, on écrit dans cette newsletter et le cas échéant, ça tombe dans un de ces meetings, de ces assemblées. Donc, un endroit anarchiste qui fonctionne depuis 50 ans. Oh, 1000 personnes en plein cœur de Copenhague, en plein cœur d'une capitale. Alors, j'y ai donc vécu 4 ans. J'y ai appris le danois, alors un danois absolument abominable, vulgaire comme tout, et quand je parle à des danois entre guillemets normaux, ils me disent « où est-ce que tu as appris ton danois ?» et quand je dis « où est-ce que je l'ai appris ?», ils comprennent pourquoi je parle comme ça. Donc mine de rien, c'est plein de renseignements sur ce lieu. Et puis j'ai commis un autre livre, avec un titre volontairement un peu provocateur, « Manuel réglementaire de l'anarchisme ». Et le sous-titre étant « Avec ses consignes, constitution, décrets, devoirs, dignité, directives ». Bon, je vous passe le reste. C'est une anthologie d'histoires, de fables, d'apologues, de récits qui illustrent ce que peut être l'anarchisme concret. Et à peu près à chaque fois, on pourrait déduire tout ça de la phrase ici « Les décisions sont prises par les gens qu'elles concernent ». Alors pour continuer sur l'anarchisme, il y a trois livres de base que je recommande parce qu'ils sont faciles à lire. Premier livre, Normand Baillargeon, un Québécois, qui s'appelle « L'ordre moins le pouvoir ». Alors pareil, les érudits de l'anarchisme reconnaissent immédiatement une phrase qui vient de Proudhon. Donc l'anarchisme, c'est pas un bordel infâme, mais c'est pas non plus le pouvoir vertical. C'est simple et c'est relativement complet. Il y a des tonnes de livres sur une histoire de l'anarchisme, souvent très mauvais, alors que celui-ci, écrit par Marianne Henkel. Marianne Henkel, c'est une femme qui vit à Lausanne et qui aide à tenir le CIRA, Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, la plus grande et la meilleure bibliothèque du monde, dans plein de langues différentes, sur l'anarchisme. Un vieux classique magnifique. Bon là, il y a des gens qui le connaissent. Le discours sur la servitude volontaire. Alors Étienne Laboétie, c'était un pote de Montaigne, c'est pour ça qu'il y a cette parole célèbre, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et c'est un noble français mais qui se dit « mais pourquoi est-ce qu'on obéit au roi ?» et qui comprend qu'il n'y a aucune raison particulière qu'on doive obéir au roi, et que par conséquent, si on obéit, c'est qu'on le veut bien, et donc il crée ce concept de servitude volontaire. Ah, c'est quand même assez fabuleux parce que Montaigne, on parle des années 1500 et des poussières, et on a là quelqu'un qui déjà à ce moment-là, non seulement pense en anarchiste, mais réussit surtout à écrire de manière anarchiste. Alors, encore, ah oui, un livre qui en ce moment se vend drôlement bien, c'est très très bien fait, le dictionnaire anarchiste des enfants. C'est très bien écrit, c'est très simple, et ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Alors je vais parler après des autres livres qui auront à voir plus avec la décroissance, mais déjà tout ça, c'est une bonne idée. Puis il y en a encore deux. Alors un, fabuleux, l'Espagne libertaire de Gaston Leval. Alors qu'est-ce que c'est Gaston Leval? C'est quelqu'un qui est allé en Espagne en 36, en Aragon, en Catalogne, c'est-à-dire là où on a eu une société, alors en partie anarchiste, à grande échelle. Parce que très souvent, l'une des critiques contre l'anarchisme, c'est de dire « Ah oui, c'est bien gentil, mais ça ne marchera pas à partir d'une certaine échelle. » Désolé, cette expérience a montré que l'anarchisme, ça fonctionne de manière concrète. Je parle de tramways dans les rues, je parle d'usines, je parle de tout à l'égout. Je parle d'épuration d'eau. Donc je parle de choses extrêmement concrètes, de très grande échelle, et ça marche sans chef. Et ça a été raconté par ce livre-là, qui en plus a un grand avantage, je ne devrais pas dire ça dans une librairie, disponible gratuitement en PDF. Donc il n'y a pas de problème, PDF, crac crac, Espagne libertaire de Gaston Leval. Donc celui-là, je me le garde, désolé. Who's reading English? Ah zut alors. Bon, enfin, si votre anglais est pas trop mal, alors ça c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc c'est une anthologie de textes des classiques anarchistes. Alors il y a tout le monde là-dedans, Proudhon, Bakounine, toute la série, jusqu'à des textes des années 70, remarquablement bien choisis, en particulier parce que c'est un livre qui veut répondre à toutes les objections qu'on élève traditionnellement contre l'anarchisme. Alors c'est un peu dommage parce que c'est en anglais. Donc il y a les traductions en anglais de Proudhon, de machin, d'Élisée Reclus, etc. Et j'espère qu'un jour, un éditeur français va reprendre les textes originaux et faire exactement le même choix. Il n'est pas très facile à trouver, malheureusement. Hein, il est épuisé, mais franchement, il est excellent. Alors, on continue sur notre définition de l'anarchisme. Il y a une autre phrase qui est bien utile, même si elle est un peu plus polémique, un peu plus brutale, mais elle dit à peu près la même chose. Mais là, vous la connaissez toutes. Ni Dieu ni maître. Alors qu'est-ce que ça veut dire ni Dieu ni maître ? C'est le refus de toute domination injustifiable. Des dieux, il n'y en a pas. Et donc très souvent, il y a un très grand nombre de systèmes autoritaires qui posent leur domination en disant « on tient notre pouvoir des dieux » ou du dieu, désolé, il n'y en a pas. Et ni maître, c'est également la conséquence. Et là c'est pareil, si vraiment vous prenez au sérieux l'expression ni maître, ben, ça va dérouler un très grand nombre de conséquences qu'on peut aussi définir par cette phrase extrêmement simple. Une fois qu'on prend ça au sérieux, on est obligé d'arriver encore à un autre concept essentiel, l'égalité. Parce que si on dit que les décisions sont prises par les gens qu'elles concernent, et là on va voir que ça va avoir un lien direct avec la décroissance, il y a beaucoup de choses qui nous concernent toutes et tous. Par conséquent, l'anarchisme ne peut être que un projet politique d'égalité. Parce que si on dit qu'il y a des gens qui méritent plus que d'autres, qui ont plus de pouvoir que d'autres, eh bien, il va y avoir des décisions qui vont concerner tout le monde, mais dont on va soudain dire « Ah non, mais il y a juste cette personne ou ces personnes-là qui peuvent prendre des décisions, pas ces autres personnes, mais manque de chance, elles concernent tout le monde. » Donc ça, à la fois cette phrase et ce principe d'égalité, c'est bien entendu là où on a le point de combat entre les démocraties représentatives et l'anarchisme, pour lequel il y a, alors, a priori pas de représentants, peut y avoir des mandatés. Alors quand on va sur la fin discuter de la manière dont l'anarchisme a été réalisé jusqu'à un certain point, il y a quelque chose dont je peux parler. Je participe à Radio Libertaire. Je participe également au Monde Libertaire. Alors Radio Libertaire, c'est 40 ans de radio. Ça fonctionne depuis le début, zéro chef. Il y a trois mandatés. Alors je suis l'un des mandatés. Bon, pour pas grand-chose, je suis mandaté à la programmation, c'est-à-dire que normalement, quand il y a des projets de nouvelles émissions, on est censé m'en parler. J'en parle évidemment avec les deux autres mandatés, à la technique et à l'administratif. Et tous les ans, bah, le congrès de la Fédération anarchiste, éventuellement, nomme d'autres mandatés. Et puis si jamais les gens sont vraiment pas contents contre ce qu'on fait, un congrès exceptionnel peut être demandé, et à ce moment-là, nous ne serions plus mandatés, nous serions remplacés par d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment une pierre de touche très importante de l'anarchisme. Et là-dessus, il y a encore une phrase tout à fait importante, parce qu'on parle de liberté, on parle d'égalité, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, la solidarité. Et là-dessus, la première phrase vraiment magnifique, c'est une phrase de Bakounine. « Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. » Et là aussi, ça c'est une pierre de touche de l'anarchisme, on n'est jamais complètement libre si quelque part sur la planète, il y a encore des gens qui ne le sont pas. Vous connaissez tous une autre phrase, et qui a tout d'un coup été améliorée par un monsieur dont j'ignorais à peu près tout jusqu'à il y a peu, un monsieur qui s'appelle Jacques Dejean, je présume que c'est un pseudonyme et qu'il a voulu faire penser à un autre auteur anarchiste plus connu qui s'appelle Déjacques, et dans Nature et Anarchie, excellent livre mais qu'on ne peut se procurer que chez lui, il a auto-édité ça, il a cette phrase magnifique, « Ce n'est pas l'individu du libéralisme atomisé et dont la liberté s'arrête à celle d'autrui, mais au contraire un individu social dont la liberté commence avec celle des autres. » Et ça, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, parce que très souvent, bah, y a cette phrase, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Bah, c'est encore mieux de dire, elle commence avec celle des autres. Un petit détail amusant, nous sommes dans une librairie. Je ne sais pas à nouveau quelles sont vos expériences politiques et quels sont les mouvements politiques auxquels vous avez adhéré ou participé. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours plu chez les anarchistes. On lit. On est de loin le mouvement anarchiste qui lit le plus. Ça me semble d'autant plus important aujourd'hui que, comme vous le savez, la lecture est en pleine... Là, pour le coup, le mot n'est pas bon. En pleine décroissance. Là, pour le coup, c'est pas bon du tout. Et donc, ça, c'est un petit aspect, mais qui est finalement beaucoup plus essentiel qu'on ne le croit.
Écoutez bien Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission en ce moment, Le Proton se rebiffe, a été enregistrée à Avignon, dans l'excellente épicerie-librairie appelée Youpi, 24 avenue Saint-Ruf, par Alexandre de Radio Aioli. Et la conférence porte sur le thème « Décroissance et anarchie ». Sont-elles jumelles et sont-elles réalisables ?
Qu'est-ce que c'est que la décroissance ? Alors, incidemment, Aurélien en témoigne, un de nos amis qui est physicien. Il tombe il n'y a pas longtemps sur deux étudiants en géographie, qui n'avaient jamais entendu, jamais lu le mot décroissance. Donc on en est resté absolument baba. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons souhaité faire cette conférence. Alors, qu'est-ce que c'est que la décroissance ? Alors, vous allez m'excuser, mais comme après tout, décroissance, c'est un mot apparemment négatif, décroissance, ben, je vais commencer par des choses négatives. Ce que la décroissance n'est pas. Ça n'est pas l'écologie. Ah ben oui. L'écologie, c'est quoi ? Alors, on va passer dans le grec. Non, mon grec est très limité. le grec oikos. Alors, oikos, c'est la maison, la résidence, l'habitat. Et logos, le discours, l'étude. Donc, l'écologie, littéralement, c'est l'étude de l'habitat. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est pas pour pinailler, c'est très simple. L'écologie, c'est une science. La décroissance, c'est un projet politique. Et là, c'est très important de faire cette nuance, parce que vous savez comme moi qu'il y a dans la scène politique française et dans beaucoup d'autres pays, des tonnes et des tonnes d'écologistes. Mais quand on commence à parler de décroissance, là, tout d'un coup, ça peut poser un petit problème, puisqu'on a ces choses extrêmement amusantes qui s'appellent la croissance verte, le développement durable et autres infamies et autres paradoxes oxymores et contradictions dont on reparlera un peu plus tard. Qu'est-ce que ça n'est toujours pas la décroissance ? Alors là, il y a une phrase extrêmement importante aussi. La décroissance, c'est pas la fin du progrès. Parce que le progrès, c'est pas la croissance. Je peux le dire à la radio, on nous emmerde avec cette histoire de progrès et de croissance, mais désolé, la croissance telle qu'elle est utilisée en particulier par les politiques et par les économistes, la croissance est extrêmement simple et c'est extrêmement étroit. Ça n'est que l'augmentation, espérée en plus infinie, éternelle, du profit financier. C'est la réduction complète de l'activité humaine à tout simplement l'augmentation du PIB. Alors, le PIB, définition du PIB. Waouh, magnifique, excellent, tout à fait. C'est un système de mesure intelligent. Con comme un balai. Alors, même les économistes, entre guillemets, normaux, sont pas très heureux avec le PIB. Alors, le PIB, il y a des tonnes de définitions. Le produit intérieur brut au prix du marché vise à mesurer la richesse créée par tous les agents privés et publics sur un territoire national pendant une période donnée. Ouais, ça nous aide pas beaucoup. Tout d'abord parce que la notion de richesse, elle aussi, elle est vague. Qu'est-ce que c'est que la richesse ? Alors, donc après, ils prennent, ils disent, voilà, va y avoir tous les mouvements financiers, etc. C'est monstrueusement étroit. Cette idée qu'il faut tout faire dans l'action politique pour augmenter la croissance simplement d'un indicateur, et un indicateur de quoi ? De l'argent. Si vous me permettez, je voudrais faire une petite digression, mais petite. Comme je vais expliquer un peu plus tard que les liens entre anarchisme et décroissance sont insécables, il y a une autre paire insécable. Dieu et l'argent. Oui, non, Dieu et l'argent. Alors, j'essaie de m'expliquer ça vraiment vite. Dieu et l'argent sont deux riens qui peuvent tout. L'argent, excusez-moi, comme vous m'avez si bien répondu, est-ce que l'argent c'est plein ou c'est vide ? L'argent c'est plein ou c'est vide ? Ouais, je sais bien, c'est un peu brutal de demander comme ça. L'argent c'est rien. Supposons que j'ai là un billet de 20 euros dans la main. Est-ce qu'il m'est utile directement ? Hormis si je vais aux toilettes. Ça va pas être terrible, hein, je peux pas le manger, je peux pas en faire grand-chose, ça va pas me chauffer très longtemps. L'argent c'est complètement vide, c'est une convention. C'est juste un accord social entre les gens. Ben, si j'ai un petit symbole, si j'ai un petit chiffre, tu vas pouvoir accomplir ce service ou tu vas me donner ce bien et moi je vais pouvoir aller le refaire. Donc l'argent, c'est vide, mais ça peut tout. Parce que dans la société capitaliste, l'argent achète à peu près tout. Alors Dieu, c'est un peu pareil, parce que Dieu, il est souvent défini de manière totalement négative. Alors c'est l'ineffable, c'est l'inconnaissable, c'est l'infini. Il y a toujours un et puis ensuite un concept derrière. Et en même temps, Dieu peut tout. Bon, c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein. C'est Georges Simmel, un excellentissime sociologue allemand de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, pour en revenir au fameux PIB, je propose une autre phrase. Non, on va pas y avoir la place, c'est pas grave. Progrès et PIB n'ont qu'une chose en commun, la lettre P. Et le reste, désolé, le vrai progrès humain, c'est le progrès du bonheur humain, c'est le progrès de la sécurité, c'est le progrès de la santé. Ça n'a rien à voir avec juste la croissance. Alors qu'on continue un tout petit peu sur la bon Dieu de croissance, je disais, ça n'est pas la croissance verte. Alors la croissance verte, c'est cette espèce de paradoxe idiot qu'on essaie de nous servir, en disant, on va continuer la croissance, parce que la croissance, c'est ce qu'il y a de mieux, mais comme nous avons bien compris le message et qu'il faut prendre soin de l'environnement, de l'écologie, eh bien, la croissance va être respectueuse de l'environnement. Nous pourrons continuer à avoir des trillions et des trillions de dollars. Je vous rappelle que l'économie actuelle maintenant, c'est ça, c'est des trillions et des... Alors, il y a des matheux dans le coin, un trillion, c'est quoi déjà? C'est 1 000 milliards? C'est 1 000 milliards, hein, c'est un truc de fou. Donc le budget américain, c'est des trillions. La masse monétaire mondiale, c'est des trillions. Et est-ce que tout ça peut être compatible avec la croissance verte? Alors on va prendre un exemple tout bête. On nous dit on va pouvoir faire d'une croissance verte parce que on va pouvoir tout recycler. Parce que le recyclage à l'environnement, ça ne coûte rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous prenez du verre, vous le faites fondre, puis vous en refaites un autre verre. Ça n'a rien coûté à l'environnement, n'est-ce pas? Si. Problème. Même le recyclage, alors évidemment, c'est mieux de recycler que de ne rien faire. Mais ça coûte de l'énergie, de la matière, des transports, etc. Donc par exemple, le recyclage n'est pas la solution. C'est très bien, mais ça ne suffit pas parce qu'on continuera à avoir un coût éventuellement ahurissant, parce que oui, le verre, pour fondre le verre, il faut arriver à quelle température? Oui, à peu près, hein, 1200 degrés. Donc le recyclage, ça coûte une quantité d'énergie absolument ahurissante. Pareil pour l'eau. Pareil pour l'aluminium. Pareil. D'ailleurs, l'aluminium, c'est bien l'aluminium, n'est-ce pas? Oui, ben le problème, c'est que quand l'aluminium se réduit en poudre et que ça se diffuse, eh ben c'est un produit hautement toxique. Ah oui, non, l'aluminium, c'est assez bizarre. C'est aussi utilisé dans les explosifs. Mélanger de l'azote et de l'aluminium, bon, jusque-là, ça va à peu près, et ça devient encore plus explosif. Qu'est-ce que ce n'est pas que la décroissance? C'est pas le retour à la bougie? Non. Du point de vue philosophique, la décroissance, c'est l'inversion du statut actuel des fins et des moyens. Je m'explique. On reprend sur l'argent. L'argent. C'est une fin ou un moyen? Ah oui, pour les saloupiaux de capitalistes, l'argent, c'est une fin. Alors, c'est évidemment un moyen pour écraser les gens, mais en fait, ils écrasent les gens pas tellement parce qu'ils veulent tant écraser les gens que ça, mais c'est une fin en soi. Il faut qu'on retrouve l'idée que les fins sont plus importantes que les moyens. Et l'argent, qui au départ était vu comme un moyen, est très vite devenu une fin. Et ça, il faut qu'à nouveau, on le renverse. Alors, je sais que ça peut être un peu éventuellement compliqué, mais c'est vraiment, vraiment important. Il faut reprendre les bonnes fins. Et la décroissance, c'est, entre autres choses, mais c'est absolument essentiel, c'est de dire que l'argent, la production, la technologie, ce sont des moyens qui doivent redescendre au niveau de moyens et qui ne sont plus des fins. Le technosolutionnisme, on en reparlera, cette illusion selon laquelle on va pouvoir résoudre tous nos problèmes environnementaux parce qu'on va inventer des technologies géniales, Elon Musk, ben désolé, la technologie, ça n'est pas une fin en soi. Alors justement, on parle de technologie. La décroissance n'est pas la haine de la technologie, des machines, etc. Non, à nouveau, c'est les remettre à leur place. Elles doivent nous servir, nous ne devons pas devenir leurs esclaves. Alors il y a quelque chose qui me réjouit profondément, là ce soir, c'est fabuleux. Axel. Ah là, Axel, là, tu contredis juste ce que j'allais dire. Ça y est, Aurélien a compris. Aurélien a compris. Il n'y avait pas un seul téléphone portable. Génial, il n'y avait pas de smartphone. Axel, tu me déçois, là. Voilà l'exemple parfait de la technologie qui était censée nous être utile. Et vous savez comme moi, quel ravage abominable le bon Dieu de smartphone exerce sur la quasi-totalité des cerveaux. Alors après, il y a des tonnes et des tonnes de technologies dont on sait qu'elles sont déjà nocives en soi, par exemple le nucléaire. Et puis il y a un copain, c'est un peu dommage, j'aurais dû aussi y penser, il y avait un copain de attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ellul. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ivan Illich. Ivan Illich a dit quelque chose à quelqu'un ? Ah oui, c'est bien, parce qu'il fut très célèbre il y a 40 ans, il est un peu moins, mais il est quand même extrêmement intéressant. Et Ivan Illich, pour le prendre par le petit bout de la lorgnette, mais c'est quand même très important, souvenons-nous, il avait démontré que si vous vivez en ville, vous allez beaucoup plus vite, vous perdez beaucoup moins de temps avec une bicyclette qu'avec une voiture. Ah non, on se dit non, désolé, les voitures, ça va tellement plus vite. Donc Illich avait remarqué que d'abord, l'augmentation des voitures crée des embouteillages. Dans les embouteillages, bah, on est bloqué. Et puis, il avait eu cette idée de génie de dire, mais attendez. Vous utilisez combien de temps à vous acheter une voiture, à l'entretenir, à payer pour l'essence, les réparations, l'assurance. Et il avait calculé tout le temps. Il avait démontré que, désolé, on va infiniment moins vite en voiture que en bicyclette, en ville. Et donc, là, il a créé cette notion de seuil. Il y a des tonnes de technologies qui peuvent être très utiles tant qu'elles sont justement juste un moyen, tant qu'elles sont à une taille relativement limitée, et qui à partir du moment où elles dépassent un seuil, deviennent nocives, font exactement l'inverse que ce qu'on leur demandait, par exemple pour la voiture de se déplacer rapidement, et nous en sommes là maintenant pour une quantité absolument gigantesque de technologies qui existent. Donc, maintenant on va dire qu'est-ce que c'est bien que la technologie. Donc tout d'abord, elle est un but, mais elle n'est pas seulement un but, elle est, alors là vous allez me dire, là Jean-Manuel on ne comprend plus, vous vous inversez, elle est aussi un moyen. Alors je m'explique. La décroissance, il y a souvent des gens qui objectent en disant oui, ce que vous voulez avec la décroissance, c'est que tout le monde vive dans des yourtes, dans des tentes, là-haut, dans les montagnes, et que vous passiez toute la journée avec une houe à cultiver les trois pommes de terre qui vont vous nourrir. La décroissance n'a pas un but extrêmement précis. D'ailleurs, ça va être l'un des liens, l'anarchisme non plus. Dans les deux cas, c'est un moyen pour détruire les inégalités, l'injustice, la destruction de l'environnement, l'oppression des gens. Et la structure finale des sociétés qu'on pourrait obtenir avec l'anarchisme et la décroissance, c'est à nous de l'inventer. Par exemple, il y a à Christiania, il y a certaines règles qui peuvent être appliquées dans Christiania, mais qui éventuellement dans d'autres endroits n'auraient plus de raison d'être. Par exemple, à Christiania, il y a une règle féroce, hormis les ambulances, hormis les tracteurs qui recueillent les ordures, pas de voiture, pas du tout de voiture. Oui, mais Christiania, c'est grand par rapport à Copenhague, mais c'est pas très grand. Donc on n'a absolument aucun besoin d'une voiture à l'intérieur de Christiania. Mais si on parle de gens qui vivent à 20 km dans des montagnes par ici, alors des montagnes en particulier comme ça, les vélos cargo, c'est vachement bien, mais la voiture, ça peut de temps en temps être utile. Alors incidemment, les vélos cargo, c'est merveilleux, je les ai découverts à Christiania donc en 1980-1984. Ça s'appelait des Long John. Bon, c'est pas grave. Il y a une plaisanterie derrière, mais je vais pas la traduire. Et en tout cas, ils étaient merveilleusement utiles. Et puis, un autre but de la décroissance, définir et fournir un revenu minimal garantissant une vie digne, et définir un revenu maximal acceptable garantissant qu'on n'exploite pas autrui. Parce que, Aurélien en est témoin, nous discutons beaucoup d'une objection constante, brutale et pas si évidente à combattre contre la décroissance qui est « Ah oui, mais la décroissance, c'est pour les riches. Parce que les pauvres, ils sont en train de crever de faim et eux, il faut d'abord qu'ils aient de la croissance et après seulement, on pourra parler d'autre chose. » Si on se pose ça comme idée, qu'il faut à la fois un revenu minimal pour tout le monde, dans tous les pays du monde, et d'un autre côté un revenu maximal qui garantisse qu'aucun individu n'en exploite d'autres, là, on répond à cette objection. Et attention, quand on dit revenu minimal, bien entendu, alors déjà, là, moi, je viens de Paris, là. Alors, c'est fabuleux parce que déjà, les prix à Avignon, ah, c'est nettement mieux qu'à Paris. Et dans d'autres pays, c'est encore nettement mieux. Donc, fatalement, ces notions de revenu minimal et de revenu maximal seront des choses relativement fluides. Et en plus, éventuellement, nous sommes beaucoup d'anarchistes à espérer qu'un jour, on pourrait avoir une société sans argent. Alors là, à nouveau, il y a quelque chose sur lequel la plupart des anarchistes sont au moins d'accord. Si éventuellement on garde cet outil discutable qu'est l'argent, il y aura une chose au moins qu'on ne pourra pas faire avec l'argent. Le prêt à intérêt. Toute la finance est basée sur cette notion obscène que si on prête de l'argent, eh bien ça coûte quelque chose, il y a un loyer de l'argent. Et si on dit non, désolé, il n'y aura pas de loyer de l'argent, là, tout d'un coup, tout le système financier s'écroule. Alors là-dessus, il y a une statistique absolument redoutable. Je la cite de manière un peu grossière, mais en gros, les chiffres sont bons, puis ça augmente d'année en année. À votre avis, quel est le pourcentage entre le fric dans le monde, la masse monétaire mondiale, qui n'est que dans les circuits financiers, hein, entre les banques, les agents de change, les bourses, etc. Hein, et puis... l'argent qui nous sert à nous à acheter les excellents fromages, livres, gâteaux de Youpi, etc. Quel est le pourcentage entre les deux? Ah ben, vous êtes en retard. On en est déjà à 90, 92, 93. C'est démentiel. Ça grandit d'année en année. C'est donc là. C'est sur la masse monétaire mondiale. C'est-à-dire que c'est fou. Il y a une quantité d'argent. Quand les politiques ont l'infernal culot de dire « il n'y a pas d'argent », c'est démentiellement scandaleux. Mais évidemment, cet argent-là, bah, il tourne dans les circuits de la finance et non pas pour aller aider les SDF, etc. Donc ça, c'est une idée fondamentale, en tout cas dans la décroissance. Dans l'anarchisme, à nouveau, il y a cette discussion, est-ce qu'on veut garder l'argent ou pas? Mais si on garde l'argent, revenu minimal d'un côté, pour que ça bénéficie aux plus pauvres, revenu maximal, faut qu'on arrête l'exploitation.
Vous écoutez bien Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission en ce moment, Le Proton se rebiffe, a été enregistrée à Avignon, dans l'excellente épicerie-librairie appelée Youpi, 24 avenue Saint-Ruf, par Alexandre de Radio Aioli. Et la conférence porte sur le thème « Décroissance et anarchie, sont-elles jumelles et sont-elles réalisables ?»
Troisième partie, nos liens, ce que j'appelle des liens insécables, donc impossibles à couper, entre décroissance et anarchisme. Alors là, là-dessus, ma position personnelle est extrêmement simple. Bienvenue à bord. Pour moi, décroissance et anarchisme, c'est bonnet vert et vert bonnet. Je pense, heureusement je ne suis pas le seul, que la décroissance sans anarchisme est impossible. Et je pense également que l'anarchisme, et là heureusement on s'est débarrassé de certaines illusions, en particulier dans les années 1900, que l'anarchisme implique une société qui par définition sera décroissante. Alors pourquoi est-ce que j'affirme tout ça ? Je voudrais tout d'abord qu'on revienne à la phrase là, tellement simple, les décisions sont prises par les gens qu'elles concernent. Quand on décide de prendre soin de l'environnement, concept global, vous êtes bien parce que vous êtes pas loin là. Et l'environnement, il est le même partout ? Ah non, il est complètement différent, vous faites 200 mètres, vous êtes dans un environnement différent. Vous êtes sur les berges d'un ruisseau, c'est un certain environnement, vous faites 200 mètres sur la colline, vous êtes dans un deuxième environnement, vous faites 200 mètres de plus dans un troisième, etc., etc. L'environnement, c'est toujours extrêmement varié. Donc, les décisions pour protéger, améliorer, renforcer, faire revivre l'environnement, il va falloir tout le temps qu'on en prenne beaucoup au niveau local. Et ce niveau local peut être extrêmement précis. Alors, justement, là, avant la conférence, Aurélien, quelqu'un est venu dans la librairie pour parler du virage, là, avenue Saint-Ruf, où apparemment, les gens en bicyclette, se rétament parce qu'il y a des rails de tramway. C'est très bien, les rails de tramway, c'est beaucoup mieux que les voitures. Ben, là, les rails de tramway, ça fait glisser quand on est en bicyclette. Ben, voilà une décision totalement locale, qui devrait être prise par les gens qu'elle concerne. Alors évidemment, ça concerne relativement pas mal de monde, parce que c'est les gens à vélo dans Avignon, en particulier les gens du quartier. Et cette notion de décision locale pour l'environnement, elle fait donc immédiatement respecter ce principe totalement anarchiste. Les décisions sont prises par les gens qu'elle concerne. Alors là, vous allez me dire, parce que j'ai déjà essayé ce coup-là, puis il y a des gens qui m'ont dit « Ah ouais, ouais !» Il y a des décisions globales, parce que l'environnement, c'est bien gentil, mais le réchauffement climatique, c'est toute la planète. Ah oui, mais c'est pour ça aussi que vous en souffrez pas trop, je peux continuer. Magnifique. Les anarchistes, ils sont patriotes. L'anarchie, c'est uniquement pour la France. Ah, vous me rassurez. Les anarchistes, ils sont totalement internationalistes. Les frontières, désolé, ça ne nous concerne pas, on est contre. Et donc, il y a aussi des décisions qui, par définition, seront internationales, parce qu'il y a des tas de décisions environnementales qui seront, par définition, internationales. Comme chacun sait, le nuage de Tchernobyl, malgré les déclarations, il ne s'est pas arrêté à la frontière. Donc, quand il y a des pays qui construisent des centrales nucléaires, ça concerne tout le monde. Parce qu'une centrale nucléaire qui va exploser, qui va être détruite, ben désolé, ça va polluer la planète entière. Donc, cette articulation entre le local et le global, c'est exactement la même que ce soit dans l'anarchisme ou dans la décroissance. Je voudrais en revenir, excusez-moi parce que c'était un peu compliqué, alors j'y reviens pour que, en espérant que ça devienne de plus en plus clair. Cette histoire de fin et de moyens. Donc j'ai dit, la décroissance, c'est changer le bon Dieu de capitalisme qui met l'argent comme fin, comme objectif, comme but, et le ramener à son statut de moyen. Et là, comme je pense qu'il y a au moins la moitié du public qui est en quatrième année de philosophie à Normale Sup. Kant, philosophe allemand. Les moyens et les fins, ça vous dit quelque chose? Bon alors, le Kant, le Immanuel Kant, et il a dit des choses très très intelligentes, et il a en particulier trouvé trois impératifs catégoriques, or qui sont peut-être un peu moins impératifs qu'il ne le disait lui-même, mais il y a une phrase qu'il a dit qui est absolument merveilleuse, tant pour l'anarchisme que pour la décroissance. Et alors, tout à fait entre nous, Kant, il n'était pas du tout anarchiste, mais bon, c'est pas grave. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Et donc là, à nouveau, on a ce lien entre les deux projets politiques de mettre les bonnes fins à leur place et les moyens à leur place. Donc, exactement le même objectif dans les deux projets politiques. Et ça va avoir des conséquences extrêmement concrètes, maintenant, parce que nous faisons face, que ce soit les anarchistes ou que ce soit les gens qui veulent la décroissance, nous faisons face à deux méga-systèmes colossaux, complètement imbriqués eux aussi, qui sont d'un côté le capitalisme, très clairement le capitalisme a gagné, en gros le seul pays pas trop capitaliste à l'intérieur, c'est la Corée du Nord. Pas exactement le modèle à suivre, et à l'extérieur ils sont tout aussi capitalistes que les autres. Donc le capitalisme a gagné, donc c'est contre le capitalisme qu'il faut combattre. Et puis le deuxième méga-système qui est complètement imbriqué dans le capitalisme, c'est alors ce que Jacques Ellul, on ne saurait trop recommander les livres de Jacques Ellul, appelait le système, la méga-machine, et qu'on pourrait appeler maintenant à nouveau le technosolutionnisme. L'idée que tous les problèmes intégralement peuvent être résolus par des solutions techniques. Et cette illusion-là est une illusion extrêmement dangereuse parce que elle fait systématiquement abstraction de qui nous sommes en tant qu'être humain et de ce qu'est l'environnement. Alors là-dessus, à nouveau, c'est l'abominable Elon Musk qui est très représentant de ça. Et vous savez qu'Elon Musk, il est très pote avec ces abominables gens que sont les transhumanistes. Donc ce fantasme démentiel qu'on va pouvoir remplacer nos organes par des machines, parce que nous sommes d'accord, les machines sont éternelles, elles sont immortelles, elles ne tombent jamais en panne. Si, au lieu d'avoir un corps qui va mourir dans 10, 20, 30, 40 ans, j'étais un robot avec des machines, aucune de mes pièces jamais n'aurait un seul problème. Je serais éternel. C'est de la folie furieuse. Alors, on pourrait aller dans les détails de l'analyse de la psychologie derrière ça, mais je pense que c'est relativement clair. Donc, anarchisme et décroissance, non seulement ont les mêmes buts, mais ils ont en même temps les mêmes ennemis. Encore à la fois un but et un ennemi, les inégalités. De même que l'anarchisme refuse absolument les inégalités de statut, ben pour la décroissance, ça va être la même chose. Alors, je ne sais pas quels sont vos métiers, mais je vais confesser en public quel est le mien. Je suis guide pour les touristes. Bon, vous allez me dire, c'est pas dramatique. Ah oui, non, mais moi je suis guide pour les touristes de luxe. Parmi mes clients, il y a l'hôtel Ritz. Vous connaissez l'hôtel Ritz? Oui, vous connaissez, vous y allez tous les jours. Bon, ben, j'ai comme client donc des gens extrêmement riches. Mais alors, et vous le savez comme moi, qui sont les plus grands pollueurs? Les riches. J'ai comme client des gens qui débarquent au Bourget en jet privé. J'ai comme client des gens qui sont à Londres, à Genève, à Milan, puis qui disent « Tiens, cet après-midi, je voudrais bien aller au musée du Louvre. » Ils prennent leur jet privé, il est 10h du matin, ils débarquent au Bourget, il est 11h30, limousine, on passe me prendre, on va au Louvre. Et le soir, ils reviennent, pas nécessairement à Milan d'où ils sont partis, mais par exemple à Londres, parce qu'ils ont des potes qui veulent voir dîner à Londres. Ouh, Il y en a beaucoup des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Et évidemment, ils sont très... Alors, j'imagine que ce public connaît parfaitement les conséquences des inégalités monstrueusement brutales contre l'environnement, puis contre les gens, parce qu'évidemment, les fortunes de ces gens-là viennent également de l'exploitation des pauvres. Seulement, attention, il y a un truc dont il faut se souvenir maintenant. Toute une partie de la fortune des méga-riches ne vient même plus de l'exploitation des pauvres, mais de cette différence dans la masse monétaire dont j'ai parlé. Il y a maintenant une espèce de système autonome de l'argent qui crée de l'argent, qui crée de l'argent, qui crée de l'argent, sur lesquels vivent ces gens-là. Et vous savez peut-être comme moi que les ultra-riches, qui quand même s'informent beaucoup, parce que c'est difficile de devenir ultra-riche si on n'est pas très très bien informé, et les ultra-riches, ils ont compris quand même que l'environnement, on va droit dans la catastrophe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'ils vont pouvoir s'isoler. Alors, c'est très très sérieux. Vous savez par exemple qu'il y a un paquebot qui a été acheté par à peu près 150 types qui l'ont très bien équipé et qui, si jamais il y a une catastrophe abominable, ben, ils pourront survivre sur ce paquebot. Je ne vous raconte pas le prix de l'appartement dans le paquebot, on parle de millions de dollars. Vous trouverez facilement sur le net la publicité d'un entrepreneur tchèque qui vous fait des bunkers. Hein, des bunkers solides, pas de problème. Vous balancez 10 bombes atomiques, ça survivra. Ah oui, mais c'est des bunkers de luxe. Et dans la publicité que vous voyez, vous avez le musée personnel du milliardaire avec un Mondrian, un Giacometti, un Matisse. Tout ça dans un bunker. Alors il y a une piscine dans le bunker, il y a un jardin dans le bunker. Donc ces gens-là croient qu'ils vont pouvoir survivre aux catastrophes écologiques qu'il nous prépare. Donc, absolument, lutte contre les inégalités. Encore sur la décroissance, puisque on a en commun avec l'anarchisme, les décisions sont prises par les gens qu'elles concernent, faire décroître non seulement l'économie gaspilleuse, l'économie pollueuse, mais essayer de faire décroître au maximum la taille des institutions. J'en veux un exemple très simple. Alors à nouveau, c'est dommage parce que là, je parle à des gens qui sont à Avignon et moi, je suis à Paris. Mais vous avez peut-être entendu dire qu'à Paris, il fut un temps, il n'y a pas longtemps, 15-20 ans, il y avait au moins un hôpital par arrondissement. Ben maintenant, c'est foutu. Macron et compagnie, mais surtout Macron, ont fermé un grand nombre d'hôpitaux. Ils ont fermé des hôpitaux pour concentrer tout ça dans un méga hôpital qui s'appelle l'hôpital Georges Pompidou. Alors, je ne sais plus quel est le mot, c'est iatrogène. Oui, les maladies qu'on a parce qu'on va à l'hôpital. Hein, parce qu'à l'hôpital, évidemment, vous avez fatalement des tonnes de microbes. Et donc, on attrape des maladies particulières. Merci. Alzheimer. Ça, on... Par exemple. Exactement. Oui, non. Fallait bien que ça arrive. Et donc, et là, c'est fou parce que, alors qu'on a eu 2 ans de Covid, où on s'est rendu compte qu'on manquait d'hôpitaux, ce saloupio de Macron continue à vouloir démolir les hôpitaux parisiens. Il n'y a plus qu'un seul hôpital au centre de Paris qui est l'Hôtel Dieu. Alors, quand même, Paris, mine de rien, c'est 2 millions d'habitants, 9 millions de banlieusards, 48 millions de visiteurs par an. Il n'y a plus qu'un seul hôpital dans le centre et ils veulent le fermer complètement. Alors attention, ça arrivera à Avignon aussi. Hein. Donc, décroître aussi la taille des institutions. Et enfin, un truc alors extrêmement simple, peut-on faire confiance aux élus pour réaliser un programme de décroissance? Bon, vous connaissez sans doute comme moi la phrase « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». L'anarchisme est bien entendu absolument contre ça. Et là-dessus, il y a un concept extrêmement simple. Moi, personnellement, les hiérarchies, je les appelle des filtres à salauds. Parce que la hiérarchie, ben, ça filtre les gens. Parce que faut combattre pour arriver en haut de la hiérarchie. Quasiment par définition, quand vous avez des hiérarchies un peu complexes, si vous êtes arrivé en haut, il y a quand même de fortes chances que vous soyez un salaud. Alors, c'est pas juste anecdotique. Réfléchissez à beaucoup des hiérarchies auxquelles vous avez été confrontés et très souvent vous vous apercevrez que l'illusion de la méritocratie, c'est tout à fait discutable.
Écoutez bien Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission en ce moment, Le Proton se rebiffe, a été enregistrée à Avignon, dans l'excellente épicerie-librairie appelée Youpi, 24 avenue Saint-Ruf, par Alexandre de Radio Aioli. Et la conférence porte sur le thème « Décroissance et anarchie ». Sont-elles jumelles et sont-elles réalisables ?
Maintenant, je voudrais passer à la présentation, on va dire, des cas, des lieux, des moments où ont été réalisés soit l'anarchisme, soit la décroissance, soit les deux. Alors là-dessus, j'espère éventuellement avoir un peu d'aide par la vague. Tout, mais pas ça. Et puis, si vous avez, vous, des exemples de lieux, d'institutions, etc., soit anarchistes, soit décroissantes, soit les deux, eh bien, n'hésitez pas. Alors, tout d'abord, à nouveau, Christiania, squat au cœur de Copenhague, à peu près la taille des Invalides à Paris, excusez-moi, je me répète, hein, 1971, 1000 personnes en 73, 1000 personnes en 2023, 60 collectifs en 73, en gros, 60 collectifs en 2023. Vous pouvez trouver des choses relativement facilement sur le net, c'est évidemment pas très complet, mais une chose est certaine, c'est que alors que là-bas, quand moi j'y étais, à nouveau j'en suis parti en 1984, donc je ne veux pas me prononcer sur après 1984, mais en tout cas quand moi j'y étais, on entendait très peu parler d'anarchisme et on entendait quasiment jamais parler de décroissance. N'empêche que dans les deux cas, bien Christiania appliquait de manière complètement naturelle, ces deux idées. Alors, il faut savoir en plus que Christiania avait quelque chose de fascinant. Il faut que vous compreniez comment est le lieu. Donc, Christiania, c'est une ancienne caserne de Copenhague, très très grande caserne. Il y a une centaine de bâtiments. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très grand. Quand je dis les Invalides à Paris, c'est encore plus grand. Et il y a quelque chose de fabuleux à Christiania, c'est que vous aviez des fortifications, mais avec en particulier un lac. Un lac. Avec une forêt. Bon, la forêt, 10 mètres d'épaisseur. D'accord. Ouais, une forêt quand même. Vaut mieux 10 mètres de forêt que rien du tout. Et donc, Christiania, il y avait ce mélange de bâtiments gigantesques. Le plus grand, c'était le dortoir des soldats. Donc, un truc qui avait des tonnes de salles sans fenêtres. Ça faisait, Friedensarc, ça doit faire 7 ou 8 étages. Enfin, ça pouvait abriter quelque chose comme 2000 soldats. Et puis, en même temps, à 200 mètres, une espèce d'idylle. Avec le lac, des arbres, des ponts. Et dès le départ, l'idée des squatteurs avait été non seulement de se procurer un lieu pour vivre, mais également d'empêcher que ce lieu ne devienne une quelconque horreur avec des gratte-ciel, avec des usines, avec des entrepôts, avec tout ce qu'on voulait, ou que ça devienne un Disneyland. Christiania est restée ouverte au public totalement, tout le temps, depuis 1971. N'importe qui peut se balader dans Christiania. C'est donc un parc qui est conservé pour le bénéfice de tout le monde. Autre donc expérience à laquelle j'ai fait brièvement allusion au début, et maintenant on va aller un tout petit peu plus en détail. Donc, dans le livre de Gaston Leval, L'Espagne libertaire, à nouveau vous le trouvez en PDF sur le net sans aucun problème, on a donc, en gros, en 1936, on va avoir, non pas des centaines, non pas des milliers, non pas des centaines de milliers, on va avoir des millions de gens qui vont pratiquer l'anarchisme de manière concrète. Donc à nouveau, les tramways à Barcelone, des usines, la fourniture d'eau, le tout à l'égout, des collectives agricoles. Alors là, en Aragon en particulier, il y a eu des zones immenses où les paysans mettaient leurs ressources de production, d'action et d'espace en commun. Il y a eu même des collectifs où il n'y a plus eu d'argent. Donc pendant quasiment 10 mois à peu près, ils ont fonctionné sans argent et sans chef. Il y avait des comités d'organisation, mais toujours construits de façon que si jamais on n'était pas content avec ce que faisait tel ou tel membre du comité, voire le comité tout entier, ben, il suffisait d'avoir une grande assemblée générale et on changeait le comité. Pourquoi est-ce que ça n'a plus existé ? Hélas, alors là, c'est vraiment pas bien. Les cocos, les communistes. Staline qui se dit quand même on va aller aider ce truc-là. Et alors, les communistes, plus évidemment les fachos qui ont été en pleine guerre civile, mais les communistes en particulier ont poussé pour la destruction de tout cet univers anarchiste. Et en gros, hélas, on va dire qu'en gros, fin 1937, toutes ces choses-là, quasiment toutes ces choses-là, ont disparu. Elles ont été remplacées par des systèmes avec des représentants. Enfin, tout d'un coup, pof, on remet des hiérarchies. Et ça a été brutal. Néanmoins, ça a prouvé que l'anarchisme peut fonctionner à grande échelle. Enfin, en quelques autres lieux, Radio Libertaire. Radio Libertaire. Alors Radio Libertaire fondée donc il y a 40 ans, jamais de chef, j'avais expliqué un peu au début, des mandatés, trois mandatés, qui peuvent être changés, je dirais pas à l'instant, mais enfin très très rapidement. Tout simplement, il y a des assemblées générales, à peu près une fois tous les deux mois, et c'est là qu'on prend les décisions quand il y en a. Est-ce que, alors, tant à Christiania qu'à Radio Libertaire ou à la Fédération anarchiste, est-ce qu'on vote ? Eh non, parce que si on y réfléchit un instant, le vote c'est bien gentil, mais c'est dégueulasse. Les minorités. Quand on voit des votes là dans les grands trucs, dans les États, où un président est nommé à 50,3%, non mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il y a 49,7% des votants, parce qu'en plus les votants c'est pas toute la population, qui sont pas d'accord. Le vote, c'est la meilleure solution pour renforcer la haine. Et l'inefficacité. Christiania, il n'y a jamais, 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 jamais eu de vote. Pas une fois. Que ce soit au niveau des assemblées générales, des assemblées de quartier, des assemblées d'immeubles, des assemblées des collectifs qui gèrent leur propre collectif, du comité qui gère les finances, etc. Il n'y a jamais, jamais, jamais de vote. Alors d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Très souvent, l'objection qu'on a contre ça, c'est de dire « Oh mais non !» Les meetings, les assemblées, ça dure des heures. Ben, vaut mieux une assemblée chiante, désagréable, pénible, qui dure 5 heures, qu'un salopard au-dessus de vous, qui va rester votre chef pendant 5 ans, et non pas 5 heures, et qui va vous faire chier tous les jours à vous imposer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et ça, je sais que ça terrifie tout le monde quand on dit « mais non, mais on va prendre les décisions au consensus ». Ben désolé, Christiania, l'Espagne, l'Aragon, la Catalogne, Radio Libertaire, Le Monde Libertaire, les institutions anarchistes qu'il y a en Angleterre, en Allemagne, etc. Désolé, ça marche au consensus et ça marche. Ça semble lent, mais c'est extraordinairement durable. J'en donne encore un exemple. Christiania a eu un sérieux problème. Quand Christiania a démarré, bien évidemment, vous pouvez imaginer, la police danoise les a haïs depuis le départ. Et puis, manque de bol, Christiania s'est très bien démerdé avec le peuple danois. Ils ont fait des choses très drôles, très, très amusantes, très intéressantes. Et les Danois aiment bien Christiania. Alors la police se disait, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont une idée aussi géniale que dégueulasse. On est dans les années 70, l'héroïne. L'héroïne arrive au Danemark. Et qu'est-ce que fait la police de Copenhague? Les junkies, les drogués à l'héroïne de Copenhague, ils leur disent, t'as le choix, 2 ans de tôle ou tu pars à Christiania. Ayant, pensez bien, ils sont tous allés à Christiania. Moralité, en 1979, sur 1000 personnes, il y avait 200 toxicos. Toxicos, sérieux, hein, les junkies, avec les joues creusées et qui pensent qu'à une chose, leur fixe dans 3 heures. C'était extrêmement dangereux, ça allait tuer Christiania. Donc il y a eu un moment abominable où Christiania s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'interdire les drogues dures dans Christiania. Pas de vente, pas d'usage. Et cette décision, qui était une décision terrible, ça a pris 3 jours d'assemblée. Vous imaginez une AG, vous avez quasiment toutes et toutes été dans des AG, vous imaginez 3 jours d'AG? Ça a pris 3 jours, mais la décision a été prise au consensus, désolé, plus de drogues dures. Et ça, c'est une décision qui a été prise en 79. En 2023, c'est encore bon, ça marche encore. Il y a un problème avec le shit, mais ça, c'est parce que c'est pas un problème avec le shit, c'est un problème avec le marché du shit. Mais sur les drogues dures, il n'y a pas de drogues dures à Christiania. Et ça, c'est dû à un fait, c'est que ça a été une décision prise au consensus. D'autres lieux, alors... Oui. Alors, là-dessus, dans mon bouquin, j'en parle parce qu'il y a eu... Le problème, c'est que c'est très difficile, comme vous le savez, de... voilà, c'est... Ah, oui, c'est moi. Alors déjà, juste la pure désintoxication physique, c'est très difficile. C'est très difficile pour les toxicos, puis c'est très difficile pour les gens qui sont avec les toxicos. Et puis après, il y a la désintoxication, on va dire, mentale, émotionnelle, qui est extrêmement difficile non plus. Alors, là-dessus, oui, il y a eu des gens qui s'en sont tirés. Pas beaucoup. Ce qui s'est passé, il faut être honnête, c'est que sur les 200 toxicos, ben, la quasi-totalité est partie en ville. Christiania a proposé, en disant, écoutez, voilà, on va vous aider. Si vous promettez que vous allez collaborer au truc, on va essayer de vous aider. En ne vous envoyant pas dans les institutions extérieures, on va essayer de vous aider, vous. Il y en a eu très, très peu qui ont suivi cette offre. Et sur celles et ceux qui ont suivi cette offre, il n'y en a pas eu des masses non plus qui ont été aidés. On va dire que... Bon, j'ai pas le chiffre exact, mais une vingtaine sur 200. Ce qui est déjà fabuleux, hein. Franchement, s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu ce milieu-là, 10% de réussite, c'est franchement pas mal. Alors, si quelqu'un n'a pas respecté pas la règle, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu ça un jour, un petit naïf. Alors, il faut savoir que les médias suédois en particulier présentaient Christiania comme le paradis de la drogue. Donc il y avait encore en particulier plein de Suédois et de Suédoises qui venaient à Christiania dans l'espérance qu'ils allaient pouvoir acheter ça. Alors il faut savoir un truc, à Christiania, il y a beaucoup de chiens, au moins de la taille de celle-là, mais moins gentils, et moins calmes. C'est pas compliqué, donc moi la scène à laquelle j'ai assisté, c'était pas compliqué. Je trouvais que j'étais par hasard dans la rue, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que ce bonhomme-là vient de demander où est-ce que je peux acheter de l'héroïne. On lui a dit « Fous le camp ». Ah ben non. On dit pas de problème. Il a vu les chiens arriver. Il est devenu tout pâle. Il a couru très 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 vite. C'est quasiment que ça qu'on pouvait faire. Alors la plupart du temps, très vite heureusement, les trafiquants ont su que de toute façon ils n'étaient pas les bienvenus. Et à nouveau, ce genre de truc c'est rare parce que quand même petit à petit les gens le savent. Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins une personne qui dit bah non, désolé, tu peux pas. Et si la personne en question veut pas quitter Christiania, il suffit de crier dans la rue, et en 5 minutes, le gars qui veut acheter sa drogue se retrouve entouré par 5, 10, 15 personnes qui... J'ai pas souvenir qu'il y a eu un moment où la personne en question ait eu recours à de la violence, donc il n'y avait pas besoin d'en recourir non plus de l'autre côté. Donc de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite. Hein. Oui, parce que... Voilà, parce que je pense que maintenant, j'ai dit quasiment... Alors, j'aurais pu parler juste avant les questions. Il y a encore un lieu alors, qui est un peu... qui n'est pas complètement anarchiste, qui n'est pas du tout complètement anarchiste, qui n'est pas... On ne sait pas vraiment s'il va être décroissant ou pas, mais c'est très probable. C'est le Rojava. Est-ce que le mot Rojava dit quelque chose à tout le monde? Alors, Rojava, qu'est-ce que c'est? C'est le Kurdistan. Le Kurdistan, ce n'est pas un État. Le Kurdistan, c'est à peu près 40 millions de personnes. La majorité en Turquie, un gros morceau en Irak, un plus petit morceau en Iran et un tout petit morceau en Syrie. Les Kurdes auraient bien voulu être indépendants. Et il va se passer quelque chose de fabuleux avec les indépendantistes, on va dire, kurdes en Syrie, qu'ils vont réussir à écraser l'État islamique. Souvenez-vous, il y a quelques années, les djihadistes qui étaient là en Irak et en Syrie, ils vont tailler un bout de territoire qui est de facto indépendant. Ils vont refuser de proclamer leur indépendance parce qu'ils ne veulent pas reproclamer un État-nation. Waouh ! Ils ont obtenu l'indépendance militairement. Ils disent « Désolé, ça ne nous intéresse pas de refaire un État-nation ». Et ils ont un fonctionnement, alors encore malgré tout, de démocratie relativement représentative, mais avec une volonté d'autogestion extrêmement claire. Alors là-dessus, excusez-moi, je vous inflige une petite anecdote personnelle. J'y suis allé en 2019. Alors j'ai 63 ans, en 2019 j'en avais 59. Donc le problème c'est que pour aller au Rojava, c'est pas possible. Si on veut passer par la Turquie, on se fait tuer. C'est pas métaphorique, hein. On se fait abattre. Boum. Éventuellement, on se fait torturer avant si on a été capturé avant. Donc, passer par la Turquie, ce n'était pas possible. Il y a des gens qui y vont, mais parce qu'ils sont jeunes et qui courent vite la nuit. Alors, moi, c'était compliqué. En Syrie, c'est encore moins possible. En Iran, ce n'est pas possible non plus. On ne peut que passer par l'Irak et c'est très difficile parce que les différents pouvoirs en Irak détestent le Rojava et ne vous laissent pas passer facilement. Alors, comme j'avais 59 balais, j'y suis allé avec un homme jeune, qui en avait 25 ou 26, qui était bien connu des gens du Rojava, et qui donc a pu passer par l'Irak, parce qu'on a pu demander à telle personne et telle personne. Toujours est-il que quand même, mon copain savait que j'avais 59 ans, que je ne voulais pas aller dans les zones du Rojava, où ça tirait de partout, parce que je lui ai dit, écoute, si jamais il faut qu'on court, moi je ne vais pas courir vite et je vais me faire tuer. Donc il s'est dit, il faut qu'on aille dans l'endroit le plus calme du Rojava. Mais quand on a passé la frontière, quand on est entré dans le Rojava, ils nous ont dit, vous allez à tel endroit. Oui, mais lui savait que cet endroit, ça tirait dans tous les sens. Donc c'était pas bon pour moi. Donc il voulait aller dans l'endroit le plus calme. Donc on est allé dans l'endroit le plus calme. Et là, on est venu pour avoir permis de séjour, tagada. Et on a dit, oui, mais alors on nous a dit qu'il fallait pas aller chez vous, mais aller chez vos potes. Et là, on a vu le type... le haut fonctionnaire, entre guillemets. Alors, c'était dans une salle aussi luxueuse que celle-ci. C'était fabuleux. Comme police des étrangers, j'ai vu. Et il a pris son téléphone, il s'est engueulé avec son collègue de l'endroit là-bas. Il a dit, vous restez. Pof, pof. Et donc, j'ai pu rester là-bas. Incidemment, Rojava, les Kurdes, Turquie, Iran, Irak, c'est vachement féministe, n'est-ce pas? Hein, c'est des cultures et des lieux super féministes, on est d'accord. Eh bien, par exemple, au Rojava, toute position élue est systématiquement tenue par un homme et une femme. Systématiquement. Pareil, mariage forcé dans ces coins-là. Alors maintenant, ce qui se passe au Rojava, si votre papa veut vous faire épouser quelqu'un, vous n'avez pas envie de l'épouser, vous allez dans ces lieux qui s'appellent les maisons des femmes. Et là, il y a trois ou quatre femmes qui viennent discuter avec votre papa. Si votre papa continue à être désagréable, là, il y a 20 nénettes qui arrivent, kalach en main. Kalachnikov, chargé. Et des nénettes qui ont combattu l'État islamique, qui savent se servir de leur Kalachnikov. Donc là, il y a vraiment un lieu intéressant et dont je pense qu'il sera, s'il pouvait continuer à vivre en paix, qu'il sera décroissant. En tout cas, on n'entend pas de bruit bizarre, de désir de croissance.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Voici les cachets,
tempe, tempe, tempe,
la température,
prenez vos bibis, prenez vos billets,
pique, pique, pique,
voici les piqûres,
cache, cache, cache,
voici les cachets,
tempe, tempe, tempe,
la température,
prenez vos bibis, prenez vos billets.
Le mal est là partout qui rôde, il faut avant tout sauver vos santé, prenez plutôt des boissons chaudes. On vit sans alcool, mais jamais santé.
Buvez des titis, buvez des tisanes. Prenez vos gougous
de tous les matins.
Soignez vos ozons,
soignez vos organes.
Vous pourrez un jour en avoir besoin. Il faut dès demain faire des tas de soins. Soin, soin, soin,
soin, soin. Pam, 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 pam,
pam, pam, les dimanches, les autres jours de la semaine aussi. Si vous avez la langue blanche, tâchez ce soit la blancheur persil.
8 heures du soir, il faut qu'on se couche. Si vous voulez que le mal soit vaincu,
avec une pilule dans la bouche et la pointe du thermomètre sous le bras.
Pique, 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 voici les piqûres,
cache, cache, cache,
voici les cachets,
tempe, tempe, tempe,
la température,
prenez vos bibis,
prenez vos billets,
pique, pique, pique,
voici du soir,
cache, cache, cache,
voici les cachets,
tempe, tempe, tempe,
la température,
prenez vos bibis,
prenez vos billets,
pique, pique, pique,
avec une pilule dans la bouche,
tempe, tempe,
et la pointe du
thermomètre,
prenez vos
bras.
Quelle joie exquise.
La tête penchée,
de se mettre des gouttes dans le nez,
de se mettre des gouttes dans les trous du nez,
dans les trous du nez,
dans les trous du nez.
Ah, quel plaisir d'avoir un bon compte-goutte. Ah, quel plaisir de savoir s'en servir avec, avec la pénicilline.
La pénicilline, la théramycine, l'oréomycine et le colacol, la tifomycine, la supokinine et le bulgamine et le gomendol.
La pénicilline,
la théramycine, l'oréomycine
et le colacol,
la tifomycine,
la supokinine et le bulgamine
et le gomendol.
Désinfectons nos existences, une grippe asiatique ni le rhume anglais. C'est le virus qui vient de France, qui seul nous donnera l'amour et la paix.
Désinfectons,
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 qu'un air plus pur abreuve nos poumons, nos poumons.
cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps, quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guetté parce que nous le quittions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien, celui qui a été cette chose nouvelle et qui n'a pas changé, aussi vivante qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir, nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous rendormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire, et moi je l'écoute en tremblant et je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oui, je crie pour toi, je crie pour moi et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froid, beaucoup plus loin, toujours et n'importe où. Donne-nous signe de vie, beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgit soudain, tends-nous la main. Et sauve-nous.
fille de Chiang Mai, de Bangkok. Petite taille, rire d'émail, équivoque. Marionnette assise en cage, dans de faux salons de massage. Petite fille de Chiang Mai, petite taille, rire d'émail. Y'a du monde autour de vos cages de verre. C'est mieux qu'à Hambourg, moins cher qu'à Anvers. Mystère de l'Orient, fantasme érotique, souvenir croustillant, misère exotique. Petite fille de Chiang Mai, petite taille, rire d'émail. Petite fille de Chiang Mai, de Phuket. Numéro qu'on détaille et qu'on prête. Raffinée, soumise et sage, aux grands étrangers de passage. Petite fille de Chiang Mai, petite taille, rire d'émail. Fermier du Texas, notaire de Sedan, charteur de rapaces, porteur d'Occident. Docteur de Trévise, ancien du Vietnam, entrée belle devise au royaume de Siam. Petite fille de Chiang Mai, de Lampang, mort dorée ou jaune paille, chair de mangue, maquillée pour taire votre âge. Chignon noir et blanc visage, petite fille de Chiang Mai, petite taille, rire d'émail. Fin panier d'osier, des marchés flottants, combat singulier d'étranges cerfs-volants. Dragon de papier qui résiste encore, sourire familier du Bouddha qui dort. Petite fille de Chiang Mai, petite taille, rire d'émail.